Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdie. Par cette rediffusion, Radio Lapourdie rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, deuxième épisode, la Carthage chrétienne.
La Carthage chrétienne. Il n'y a peut-être pas dans le martyrologe de passion plus émouvante que celle de cette jeune femme de 22 ans qui s'appelait Vibia Perpetua et que nous appelons Sainte Perpétue. Elle fut martyrisée le 7 mars 203 dans l'amphithéâtre de Carthage pendant la persécution de Septime Sévère. C'était une patricienne, délicate et cultivée, mère d'un tout jeune enfant qu'elle allaitait. Elle a raconté son arrestation et sa captivité, récit auquel un auteur anonyme a ajouté une préface et le compte rendu de sa mort. De son mari, il n'est nullement question dans les Acta de Perpétue. Peut-être en voyage l'a-t-il éloigné, ou quelque affaire, ou la peur d'être compromis par la folie de son épouse. Par contre, le père de la jeune femme multiplie les démarches, les secours, les supplications, qu'elle ait pitié des siens, de son enfant, et ce n'est pas la moindre épreuve que subit Perpétue que de devoir résister à tant de larmes. Elle avait été convertie par Saturus, un diacre, et la voilà arrêtée à l'automne de l'an 202, alors qu'elle n'est pas encore baptisée, avec d'autres chrétiens de la petite ville de Tuburbo, au sud-est de Carthage. Deux d'entre eux sont des esclaves, Félicité, qui attend un enfant, et Revocatus. Saturninus et Secundulus sont de condition modeste mais libre. Un peu plus tard, le diacre Saturus les rejoindra dans leur prison. Après quelque temps passé à Tuburbo dans une captivité relativement douce, ils sont transférés à Carthage. Là, ils se trouvent entassés avec quantité de droits communs dans une fosse sans lumière et sans air, sans aucune hygiène, dans une promiscuité affreuse. « Je fus épouvanté, » dit-elle. « Jamais je ne m'étais trouvé dans de pareilles ténèbres. Oh, nuit pénible !» Il faisait une chaleur étouffante par suite de l'entassement des prisonniers. De plus, nous étions tourmentés par les soldats qui cherchaient à nous extorquer notre argent. On lui a enlevé son enfant qui dépérit, étant privé du lait de sa mère. Il arrive quand on leur fixe les pieds dans des ceps, du genre de ce que saint Paul a connu. Enfin, à force de démarches et surtout en achetant leurs gardiens, on obtient pour eux des conditions de captivité moins atroces. Son enfant lui est rendu. Surtout pour la consoler. Sont-ce des rêves? Elle les appelle des visions. Elle vit des scènes qu'elle prend grand soin de raconter. C'est l'échelle qu'elle parvient à monter malgré les crocs, les pointes de fer, la gueule du dragon à la suite de Saturus. Et elle arrive dans une prairie merveilleuse où paissent agneaux et brebis et le berger, le bon berger, la nourrit tendrement de lait caillé. Dans une autre vision, c'est son frère, mort quand il n'était encore qu'un enfant, qui sort, grâce aux prières et aux souffrances de Perpétue, d'un lieu plein de flammes et de fumée. Et puis vint ce moment où ils furent livrés aux bêtes, au cours de jeux qui célébraient les victoires de l'empereur. Il serait trop long de détailler leur dernier repas qu'ils prirent sous les yeux d'un nombre public, ainsi que voulait une coutume sordide comme tant d'autres, et les supplices et les bêtes auxquelles ils furent livrés, et les réactions de la foule d'une inimaginable cruauté. Voici seulement comment moururent ces deux jeunes mamans, dont l'une, Félicité, mère depuis seulement 3 jours, avait eu la consolation de voir son bébé adopté par une riche et vertueuse chrétienne. Lisons les dernières lignes des actes de leur martyr. On avait réservé pour les jeunes femmes une vache furieuse. À l'instigation du démon, sans doute, cette bête ne paraissant jamais dans les jeux. On les dépouilla de leurs vêtements, on les enveloppa dans des filets et on les amena ainsi. Le peuple fut saisi de honte à la vue de ces femmes dont l'une était si délicate et dont l'autre, récemment délivrée, perdait le lait de ses seins. On dut les emmener et on leur fit revêtir des tuniques sans ceinture. À peine rentrée dans l'arène, Perpétue fut lancée en l'air par la vache. Elle retomba sur le dos. Dans sa chute, sa tunique s'était largement fendue. Aussitôt, elle en rapprocha les lambeaux afin de se couvrir les jambes, plus attentive à la pudeur qu'à la douleur. Puis, s'apercevant que sa chevelure s'était dénouée, elle rattacha la graffe qui la retenait. Une martyre ne devant pas avoir les cheveux épars en mourant, elle aurait l'air d'être en deuil dans sa gloire. En se relevant, elle aperçut Félicité, qui gisait comme brisée. Elle s'approcha d'elle, lui tendit la main et l'aida à se mettre debout. En les voyant ainsi debout, toutes deux, l'inhumanité du peuple fut vaincue. Il poussa des clameurs de compassion. On les fit sortir par la porte des vivants. À sa sortie dans l'amphithéâtre, Perpétue fut accueilli par un catéchumène nommé Rusticus, qui lui était fort attaché. Elle semblait sortir d'un profond sommeil, tant avait été complète l'extase où le Seigneur l'avait ravie. Elle regardait autour d'elle, et à la stupeur générale, elle demanda « Quand donc va-t-on nous exposer à cette vache furieuse ?» Comme on lui disait que la chose avait eu lieu, elle ne voulut pas le croire, avant d'avoir constaté sur son corps et sa tunique les traces de son supplice. Elle appela alors son frère et Rusticus, et leur dit « Soyez fermes dans la foi, aimez-vous les uns les autres, et que notre passion ne soit pas pour vous un sujet de scandale. » Mais le peuple demanda qu'on ramenât les chrétiens au milieu de l'arène pour assister au spectacle du glaive s'enfonçant dans les corps et rendre ainsi ses yeux complices de l'homicide. Les martyrs se levèrent et se rendirent où le voulait le peuple. Là, ils se donnèrent mutuellement le baiser de paix pour consommer leur martyre selon le rite de la foi. Puis, ils restèrent immobiles et reçurent en silence le coup mortel. Cette fois, Perpétue ne fut pas épargné par la souffrance. Frappé d'un coup qui glissa entre les côtes, elle poussa un grand cri. Puis, saisissant la main tremblante du gladiateur maladroit, elle la dirigea elle-même sur sa gorge où elle appuya le glaive. Il semblait que cette vaillante femme ne pût mourir que de sa propre volonté et que l'esprit immonde qui la redoutait n'eût osé attenter à sa vie si elle-même n'y eût consenti. Ô très vaillant et bienheureux martyr! Ô témoin vraiment appelé et élu pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui le loue et l'honore et l'adore doit prendre connaissance de ces nouveaux témoignages, égaux à ceux d'autrefois pour l'édification de l'Église. Ces manifestations nouvelles attestent, elles aussi, que toujours un et le même, l'Esprit Saint continue d'opérer de nos jours, et avec lui, son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui sont la gloire et la souveraine puissance dans les siècles des siècles. Amen. Je ne m'en aurais pas voulu, chers auditeurs, de m'être arrêté un moment sur l'émouvante figure de Sainte Perpétue. Certes, il y a d'autres martyrs aussi illustres. Étienne, Agnès, Cécile, Laurent, à Rome. Lucie, à Syracuse. Vincent, à Valence. Blandine, Potin, à Lyon et combien d'autres. Et l'Afrique des premiers siècles a compté encore Jacques et Marien, Montanus et Lucius, Maximilien, Marcel, Cassien, Saturninus et Dativus, pour ne citer que les plus connus. Nous avons voulu faire de Perpétue une figure emblématique pour souligner l'importance primordiale du témoignage du sang pendant les premiers siècles de la vie de l'Église. Aux yeux de ces chrétiens pour qui le royaume de Dieu était proche, écrivait Louis Bertrand dans Les Martyrs africains, le monde ne valait pas la peine que du sang fût répandu pour sa possession. D'ailleurs, ce monde va passer. C'est l'autre monde qui importe seul. Déjà, ils voient le ciel ouvert. Eux, ils sont les citoyens du ciel. La réalité unique est là-haut. Tout ce que nous percevons ici n'est que l'ombre d'une ombre. C'est vers cette réalité unique qu'il faut se tourner si l'on ne veut pas mourir, si l'on veut vivre de la vie véritable. Jamais l'humanité n'avait fait une profession d'idéalisme plus radical. Une telle ardeur, une telle candeur, une telle pureté, une si héroïque affirmation de l'invisible, voilà ce qui ne s'était jamais vu. Gardons-nous de l'oublier. C'est de cet élan, de cette ferveur, de cette pureté, que malgré ses misères et ses défaillances, notre Église vit encore et qu'elle vivra tant que la foi des martyrs ne lui sera pas étrangère. Ce que les martyrs africains soulignent aussi, c'est une chose que l'on ne sait peut-être pas assez, même dans les milieux catholiques. L'Afrique ancienne, celle que les Romains arrachèrent aux Puniques au prix de leur grande guerre, devint un pays profondément chrétien, peut-être le plus chrétien de tout l'Empire romain, c'est-à-dire du monde méditerranéen d'alors. Louis Bertrand dit que c'est le pays des saints et des martyrs. Nous avons parlé de ces martyrs, parlons maintenant de ces docteurs. Tertullien, Cyprien, Augustin, voilà les docteurs éminents de l'Afrique chrétienne. De la vie de Tertullien, nous ne connaissons pas grand-chose. Seulement que né vers 155, il se convertit assez tard aux approches de la quarantaine. Précédemment, il avait mené la vie païenne. Il écrit dans son traité « De Resurrectione Carnis » « Je sais bien que c'est dans la même chair que j'ai jadis commis des adultères et que maintenant je m'efforce de garder la continence. » Vite après sa conversion, il devint prêtre. L'œuvre qui nous est restée de lui est considérable. L'apologétique, le traité de la prescription contre les hérétiques, le Contra Praxeas, le Ad Scapulam, le De Spectaculis, d'autres livres encore. C'est chronologiquement le premier écrivain latin de l'histoire chrétienne. Jusqu'à lui, on n'a écrit qu'en grec, même à Rome. C'est le grec, langue de Paul, de Luc, de Clément, de Justin, qui a été la première langue de l'Église. Les écrits de Tertullien nous donne l'idée de son caractère. C'était un homme vif, tranchant, emporté, ennemi des concessions et des demi-mesures, un lutteur, un polémiste fougueux. Son tempérament le portait au fanatisme. Il était abondant, plein de verve et d'ironie mordante. Il avait le goût et le sens des formules frappantes. C'est à lui qu'on doit le « sanguis martyrum semen christianorum ». Certains de ses propos sont excessifs, imprudents, si l'on se rappelle que les païens faisaient aux disciples du Christ le reproche d'être des apatrides et des athées, des ennemis de la cité. Nous ne connaissons qu'une république, commune à tous, le monde, proclamait Tertullien. Et il disait encore, notre seul intérêt en ce monde, c'est d'en sortir au plus tôt. Ou nul n'est sage, nul n'est fidèle, nul n'est grand s'il n'est chrétien. La philosophie grecque lui paraissait totalement disqualifiée. Aristote n'était qu'un misérable, sic. Il écrivait « Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem ?» entre l'Académie, l'école platonicienne, et l'Église, entre les hérétiques et les chrétiens. Notre doctrine vient du portique de Salomon, qui avait lui-même enseigné qu'il faut chercher Dieu en toute simplicité de cœur. Tant pis pour ceux qui ont mis au jour un christianisme stoïcien, platonicien, dialecticien. Nous, nous n'avons pas besoin de curiosité après Jésus-Christ, ni de recherche après l'Évangile. Dès que nous croyons, nous n'avons plus besoin de rien croire au-delà. Car le premier article de notre foi, c'est qu'il n'y a rien que nous devions croire au-delà. Comme on voit, les écrits de Tertullien portent un accent d'absolutisme, d'exclusivisme et d'héroïsme qui a fait l'admiration de certains critiques. Ainsi de Guignebert, qui écrivait avec Tertullien vers 222, disparaît un des derniers soutiens de l'idéal merveilleux et inaccessible qui fut celui des chrétiens de la première heure. Et son œuvre représente un des plus vigoureux efforts qui ait été tenté pour le soutenir quand même contre les hommes, contre la vie et au besoin contre l'Église. On devine que sa morale ne pouvait être qu'exigeante et austère. Par exemple, dans le Spectaculis, il interdit tous les spectacles. Dans le De Idolatria, il condamne tous les métiers qui sont ou peuvent être entachés d'idolâtrie. On ne peut pas être fabricant d'idoles, cela va sans dire. Mais l'on ne peut pas non plus être maître d'école, parce que dans cette position, on devrait enseigner la mythologie. On ne peut être soldat, qui se sert de l'épée périra par l'épée. On ne peut être négociant, la cupidité est une idolâtrie. En vain essaie-t-on de protester contre ces interdits qui ferment toutes les avenues de la vie et refoulent les chrétiens dans un désert. Tertullien répond « Il est trop tard pour parler ainsi. C'est avant le baptême qu'il fallait réfléchir et imiter ce prudent architecte qui, avant de commencer la maison, établit un devis pour voir s'il pourra faire face aux dépenses. D'ailleurs, vous avez encore maintenant les paroles et les exemples du Seigneur qui vous enlèvent toute excuse. Vous dites « Je serai dans la misère ». Le Seigneur a proclamé « Heureux ceux qui sont dans la misère ». Je n'aurai pas de quoi manger. Le Seigneur nous dit « Ne vous préoccupez pas de la nourriture ». Et pour ce qui est du vêtement, il nous a proposé l'exemple d'Élise. « Il me faut de l'argent ». Il faut tout vendre et distribuer aux pauvres. Il faut penser à ses enfants. Quiconque met la main à la charrue et regarde derrière soi est un mauvais ouvrier. J'étais en condition. Personne ne peut servir deux maîtres. Dans les derniers temps de sa vie, le chrétien âpre et dur qu'était Tertullien versa dans le montanisme. On désignait ce mouvement comme l'hérésie phrygienne, parce qu'il était né en 172 à Ardabaou, sur les confins de la Mysie et de la Phrygie. Montan, son fondateur, allait sur les chemins, flanqué de deux prophétesses, Priscilla et Maximilla. Il incarnait le paraclet, dépassait l'évangile et proclamait imminente la fin des temps. Il fit de nombreux adeptes, surtout en Asie et en Grèce, et représenta quelque temps un véritable danger pour l'Église. Tertullien s'y rallia. Puis, indépendant et critique comme il était, il fonda sa propre secte. Il finit, écrit saint Augustin dans le De Hereticis, n'ayant plus même d'Église, sans mère, sans foi, exilé, errant comme un vagabond et un banni. Pourtant, il avait été un vigoureux défenseur de l'Église. Personne n'a exalté mieux que lui l'honneur du non-chrétien, le courage des martyrs, les progrès de la foi. « Nous sommes d'hier, disait-il aux païens, c'est dans son apologétique. Et déjà nous avons rempli la terre et tout ce qui est à vous, les villes et leurs quartiers, les postes fortifiés, les municipes, les bourgades, les camps, les tribus, les écuries, les palais, le sénat, le forum. Nous ne vous avons laissé que les temples. » Et il ajoutait, « Quelle guerre ne serions-nous pas capables d'entreprendre, nous qui nous laissons égorger si volontiers, si dans notre doctrine il ne valait pas mieux souffrir la mort que de la donner. » Il dénonçait avec éclat l'illogisme de Nédi, celui de Trajan, toujours en vigueur, qui interdisait à la force publique de rechercher les chrétiens, mais qui admettait qu'on les mit à mort dès lors que leurs ennemis les avaient dénoncés. Quand les autres accusés nient, écrivait-il encore, vous leur appliquez la torture pour les faire avouer. Aux chrétiens seuls, vous l'appliquez pour les faire nier. Un homme crie, je suis chrétien. Il dit ce qu'il est. Et toi, juge païen, tu veux entendre qu'il ne l'est pas. Vous qui présidez pour arracher la vérité, de nous seuls, vous vous efforcez d'entendre le mensonge. Tu me demandes, dit l'accusé, si je suis chrétien, je le suis. Pourquoi me tortures-tu au mépris des règles de la justice? J'avoue et tu me tortures. Que ferais-tu si je niais? Quand les autres nient, vous ne les croyez pas facilement, et nous, si nous nions, vous nous croyez aussitôt. Cette argumentation, si pressante, n'est cependant qu'une préface. Tertullien veut démontrer positivement l'innocence des chrétiens. On les charge de crimes clandestins. Nulle enquête n'a jamais confirmé ces calomnies infâmes, si invraisemblables qu'elles se ruinent elles-mêmes. Si les païens les croient, n'est-ce pas qu'ils ont conscience de crimes semblables? Sacrifices humains offerts par les Carthaginois à Saturne, par les Gaulois à Mercure, par les Romains à Jupiter. C'est chez les païens qu'on trouve infanticide, avortement, inceste. Chez les chrétiens, les mœurs sont pures et l'on en voit qui gardent une continence virginale. Il y a chez eux des vieillards purs comme des enfants. Senes pueri. Contre les hérétiques, Tertullien fait valoir un argument très juste auquel il donne une désignation juridique, la prescription. Les fidèles, les catholiques, détiennent la vérité chrétienne par droit d'héritage. Le Christ l'a transmise aux apôtres et ceci aux églises qu'ils ont fondées. Dès lors, il lance aux hérétiques ce défi. Montrez l'origine de vos églises, déroulez la série de vos évêques se succédant depuis l'origine de telle manière que le premier évêque ait eu comme grand et prédécesseur l'un des apôtres ou l'un des hommes apostoliques resté jusqu'au bout en communion avec les apôtres. Car c'est ainsi que les églises apostoliques présentent leur faste. Par exemple, l'église de Smyrne rapporte que Polycarpe fut installé par Jean. L'église de Rome montre que Clément a été ordonné par Pierre. Règle d'or, qui vaut pour aujourd'hui comme pour le IIe siècle. Notre foi n'est chrétienne que si elle coïncide avec celle des apôtres. Aucune vérité ne peut contredire les évangélistes et saint Paul. Nous tenons notre foi des apôtres. L'Église est apostolique. Malgré ses outrances, rendons-lui cette justice. Tertullien n'a jamais varié ni branché sur l'essentiel. Il tient magnifiquement, éloquemment, son rang parmi les pères de l'Église. Cyprien. Saint Cyprien n'a pas les qualités littéraires de Tertullien, ni les mêmes larges et aventureuses préoccupations. Évêque de Carthage, c'est un pasteur, un responsable d'église, un ecclésiastique, en somme. Toute son œuvre est marquée par ce caractère. Sa pensée est centrée sur le mystère de l'Église. Son prestige a été considérable, incomparable. En Afrique, son culte est le plus populaire de tous et donne même lieu à des abus qu'il faut réprimer, particulièrement chez les donatistes. Son autorité, malgré ses opinions particulières inexactes sur certains points, s'impose à tous, à Saint-Augustin lui-même. Son autorité est si grande à Constantinople, à l'époque du Second Concile, en 553, que les Macédoniens mettent sous son nom le De Trinitate de Novatien pour accréditer leurs erreurs. Ces témoignages s'expliquent par l'éclat de son martyre, par l'autorité de son siège, mais aussi par l'ascendant de cette âme loyale, haute, vraiment souveraine. Né au début du IIIe siècle, entre 210 et 220, Cyprien avait été rhéteur et professeur de rhétorique. Il fut converti vers 246 par le prêtre Cecilius et ce fut dès lors la vie parfaite. Même avant son baptême, Cyprien fit vœu de continence et distribua aux pauvres une grande partie de ses biens. À ce détachement de la fortune s'allie un détachement très rare à cette époque de la littérature païenne. Novatien est hanté des souvenirs de Virgile. Tertullien, Lactance, Jérôme, Augustin reproduisent volontiers les auteurs profanes et s'en inspirent plus souvent encore. Cyprien veut les oublier. En dehors d'eux, il est des livres qu'il relit sans cesse, mais dont il ne transcrit aucun passage. Ce sont ceux de son grand et malheureux devancier, Tertullien, couvert pour lui d'un voile de deuil. 3 ans seulement après sa conversion, la faveur bruyante du peuple et le suffrage des évêques voisins le portèrent à l'épiscopat, c'était en 249. Dès l'année suivante, éclatait la persécution de l'empereur Dèce, celui dont parle Corneille dans un vers de Polyeucte, « Tigre altéré de sang, Décie impitoyable ». Les apostats sont légion, chez les prêtres et les diacres, comme chez les simples fidèles. L'évêque Cyprien, lui, se met à l'abri, il s'enfuit et se cache. Un parti se constitue qui le déclare indigne et ne veut plus entendre parler de lui. Les discussions, les conflits sont interminables auxquels Rome se mêle, même après que Cyprien retrouve son siège et qu'un concile provincial décide des pénitences plus ou moins lourdes à imposer aux sacrificati, ceux qui ont offert des victimes aux idoles, aux turificati, ceux qui n'ont offert que de l'encens, et aux libellatici, ceux qui se sont fait octroyer un certificat de complaisance. Car ni les rigoristes, pour qui le péché d'apostasie est irrémissible, ni les laxistes, pour qui l'intercession d'un confesseur martyr suffit pour que le renégat soit réintégré dans l'Église, ni les modérés ne désarment. Cette lourde querelle s'est un peu calmée quand s'envenime la question du baptême des hérétiques. Tous ces montanistes, ces marcionistes, ces gnostiques, ces adoptionnistes, ces monarchianistes, ces partisans d'Hippolyte, etc., qui ont été baptisés dans leur secte, faut-il les rebaptiser quand ils frappent à la porte de la catholique? Antioche, l'Asie, Carthage pensent que oui. Rome et Alexandrie, que non, et qu'une imposition des mains suffit. Le conflit se durcit au point que le pape Étienne décide d'excommunier Cyprien, qui ne retrouve la paix avec Rome qu'après le martyre d'Étienne et son remplacement par Sixte II. Ce sont bien des batailles. Mais dans l'action de Cyprien, il y a aussi et surtout, ses lettres et ses livres en témoignent, le travail d'un bon évêque, la prière, la prédication, le soin des veuves et des vierges, les secours apportés aux malades, aux pauvres et aux prisonniers, les relations avec les 150 évêques de la province proconsulaire et de la Numidie, sur lesquels Cyprien exerce une autorité de primat avec un prestige sans cesse accru. Lors de la persécution de Valérien, en 257, après donc 8 ans à peine d'épiscopat, il se livra aux juges et aux bourreaux. Son martyr eut quelque chose d'une cérémonie solennelle et même d'un triomphe, comme on peut en juger par les actes proconsulaires eux-mêmes. Le proconsul Galerius Maximus lut la sentence d'après une tablette, nous décidant que Tassius Cyprianus soit puni par le glaive. L'évêque Cyprien dit « Deo gratias ». Après la sentence, le peuple des frères disait « Nous aussi, quand nous décapite avec lui, un tumulte éclata parmi les frères, et une foule nombreuse le suivit. » Puis Cyprien fut conduit à l'Ager Sexti, derrière le prétoire. Là, il ôta son manteau, et fléchissant le genou, il se prosterna à terre. Puis il ôta sa dalmatique et la remit au diacre. Il se tint debout et attendit le bourreau. Quand le bourreau fut arrivé, il ordonna au sien de lui compter 25 pièces d'or. Les frères jetaient devant lui beaucoup de linge et de serviettes. Puis Cyprien se banda les yeux de ses propres mains, mais comme il ne pouvait nouer les pointes de la serviette, le prêtre Julien et le sous-diacre les lui nouèrent. Ainsi souffrit Cyprien. Pour soustraire son corps à la curiosité des gentils, on le déposa non loin de là. Puis, à la nuit tombée, on l'enleva, et à la lumière des cierges et des flambeaux, on alla l'ensevelir au cimetière du procurateur Macrobius Candidianus, voie des Mappales, près des piscines, au milieu de la joie et d'un enthousiasme triomphal. Peu de jours après, le proconsul Galerius Maximus décédait. Tertullien, Cyprien, Augustin. Le plus grand est tout de même Augustin, le meilleur écrivain latin de la littérature chrétienne. Les Confessions sont une des œuvres les plus belles qui aient été écrites. Augustin allie l'ampleur, la profondeur, l'originalité de pensée du philosophe à la ferveur du mystique. Peut-être personne, le Nouveau Testament mis à part, n'a mieux que lui exprimé l'amour de Dieu. Aucune quête de Dieu n'a été ni mieux analysée, ni mieux racontée que la sienne. Certaines de ses formules sont dans toutes les mémoires. Par exemple, « Fecisti nos ad te Deus, et inquietum est cor nostrum, dona que quiescat in te. » Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Ou encore, ama et facod vis, aime et fais ce que tu veux. Ou bien, on ne chercherait pas Dieu si on ne l'avait pas trouvé, mais quand on l'a trouvé, on le cherche encore. Ou encore, Deum non vides, ama et abes, tu ne vois pas Dieu, aime-le et tu le possèdes. Ou paratior sum dicere quam docere, je suis plus disposé à apprendre qu'à enseigner. Certaines pages des Confessions sont des morceaux d'anthologie. Ainsi du chapitre 10, « Sero te amavi, pulcritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer. » Ah voilà, tu étais dedans, moi dehors, et je te cherchais dehors où je me ruais sur les belles choses d'ici-bas, tes ouvrages. Tu étais avec moi, sans que je fusse avec toi. Tenu loin de toi par elle, qui en moins que d'être en toi ne serait pas. Tu as appelé, crié, et tu as rompu ma surdité. Tu as brillé par éclair et par vive lueur, et tu as balayé ma cécité. Tu as exhalé ta bonne odeur, je l'ai respirée, et je m'essouffle après toi. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif. Tu m'as touché, j'ai pris feu pour la paix que tu donnes. Une fois soudé à toi de tout mon être, il n'y aura plus pour moi douleur et labeur, et ma vie sera toute pleine de toi, la vie. Quand quelqu'un est plein de toi, tu l'enlèves. Plein de toi, je ne le suis pas. Aussi, mon être me pèse. Entre mes joies, j'ai à les pleurer, et mes peines, dont il faudrait me réjouir. Il y a conflit, sans que je sache de quel côté penche la victoire. Nous connaissons bien, parce qu'il l'a raconté avec précision et vérité, la vie de l'enfant de Tagaste, né d'un père païen et de la chrétienne Monique, l'étudiant de Madore et de Carthage, le rhéteur éloquent, l'homme jeune assez sensible aux délices de la chair pour ne pas pouvoir se passer de concubine, le père assez responsable pour ne pas se séparer de son fils, Déodate, le chercheur de Dieu, passionné, longtemps attardé dans les dédales du platonisme puis du manichéisme et qui débouche enfin dans la vérité du christianisme, baptisé à 33 ans, puis prêtre, et enfin évêque. Et quel évêque ? D'Hippone, dans l'actuelle Algérie. Son œuvre de théologien est considérable, dans laquelle ressortent son traité de Trinitate ou encore le De Civitate Dei. Il n'est pas sûr que son influence, énorme sur tous les siècles qui ont suivi, ait été intégralement heureuse. Le principe de la massa damnata, la multitude des damnés, le prédestinationnisme des luthériens et des calvinistes, le jansénisme aussi, se sont réclamés de lui. Le livre de Jansénius, l'Augustinus, est un commentaire du grand docteur africain. C'est lui, Augustin, qui a mis le péché originel au cœur de la théologie chrétienne. Quand Augustin mourut à Hippone en 430 à 76 ans, les Vandales assiégeaient la ville et n'allaient pas tarder à s'en emparer. Ce terrible 5e siècle est celui des invasions barbares. Poussés par les Avars et les Huns, comme tant d'autres à travers l'Europe, les Vandales, scandinaves à l'origine, avaient fini par s'installer en Bétique, et ce fut le génie de leur roi, Genséric, d'en faire des navigateurs. En 429, il passe à la mer et en quelques années, réduisant à rien le pouvoir impérial, il établit sa domination sur la Proconsulaire, la Numidie, la Maurétanie et une bonne partie de la Cyrénaïque. En 455, il était assez puissant pour débarquer à Ostie et s'emparer, 45 ans après Alaric, de Rome, la Rome de Saint-Léon, qu'il pilla pendant 15 jours et dont il se retira chargé de butins et de quantité d'esclaves. Les Vandales furent maîtres de l'Afrique pendant un siècle, et comme ils étaient ariens, soumirent les catholiques à de dures persécutions. En 533, une brillante expédition de Bélisaire, le prestigieux général de Justinien, la ramena sous le pouvoir de Byzance. Pour peu de temps. À partir de 665, les cavaliers du prophète se rendaient maîtres de toute l'Afrique alors connue. Avec une extraordinaire et confondante rapidité, le croissant remplaça la croix. Les populations se rendirent en masse à la religion des vainqueurs. L'Afrique chrétienne, celle de Tertullien, de Cyprien et d'Augustin, celle des martyrs et des saints, n'avait duré que 5 siècles.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 3e épisode, la ville d'Alexandrie.